Bonjour à tous. Depuis le 7 octobre, le peuple d'Israël, la société israélienne, a vécu un tremblement de terre. Et ça remet en question aussi notre compréhension du conflit, qui on a en face de nous. Et pour essayer de réfléchir à toutes ces questions-là et aller un petit peu plus en profondeur, on a invité aujourd'hui Eliezer Cherki, qui est un spécialiste de l'islam et du Moyen-Orient, pour essayer d'éclairer un petit peu ce qu'on est en train de vivre. On va commencer comme ça, en posant la question de est-ce que, d'après vous, le conflit est un conflit uniquement d'ordre politique, militaire, national, territorial, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est derrière ça?
Vous avez parlé d'un tremblement de terre, c'est plus qu'un tremblement de terre, parce que ça remet en cause non seulement les paradigmes et les modes de pensée de la société israélienne depuis des années, mais en fait depuis l'origine du sionisme. Les choses sont beaucoup plus anciennes. On est obligé de remonter aux années 20. Mmh. À peu près vers la même période, dans ces années 20, il s'est produit deux événements. Le premier, c'est le premier par importance, c'est en 1928, Hassan el-Banna fonde des frères musulmans en Égypte. Pourquoi 1928? C'est parce qu'en 1924, il s'est produit un événement qui est considéré comme une catastrophe terrible pour les musulmans du monde entier. De manière assez curieuse, la plupart des non-musulmans n'en ont pas conscience, ne réalisent pas à quel point c'est un événement traumatique. Non seulement un événement traumatique, mais c'est, si vous me permettez l'expression, c'est le Tisha B'Av de l'islam. Mm-hmm. Qu'est-ce qui s'est passé en 1924? Atatürk rassemble le Parlement à Ankara et déclare formellement l'annulation de l'institution du califat. Mmh. C'est une chose terrible pour les musulmans parce que le calife, le califat, est la pierre de... C'est le fondement de tout le système géopolitique de l'islam, du djihad et de manière générale de ses implications politiques. Sans calife... Il manque l'élément fondamental qui fait qu'il y a une espèce de légitimité à la guerre et à la dimension politique. Donc, en réaction à cette annulation du califat, il dit, Hassan el-Banna, qu'on est arrivé au fond. C'est la conséquence la plus terrible de la colonisation européenne dans les pays musulmans. Et c'est-à-dire que, finalement, non seulement nous sommes occupés militairement, mais en fait aussi mentalement, juridiquement, par cette disparition du califat. C'est la raison pour laquelle il va fonder les frères musulmans pour reconstituer un islam authentique. Mmh. Et il va y avoir un écho extraordinaire à ce mouvement-là, en Égypte d'abord, puis dans d'autres pays. Et le Hamas est une émanation directe de ce mouvement des frères musulmans. Mmh. Il se définit comme ça. Nous sommes une organisation affiliée aux frères musulmans. C'est ce qu'il dit dans sa charte. Mmh. Donc, c'est pour nous donner une idée de l'importance de cette dimension-là. Et à peu près à la même époque, en Eretz Israël, vers 1923, je crois, ou 24, à la suite des émeutes dites du Kotel, se rassemble un certain nombre de professeurs de l'université hébraïque, sous l'organisation connue comme Brit Shalom, l'Alliance de la Paix, Brit Shalom, autour des gens comme professeur Simone, Martine Buber, je crois, et d'autres, mmh. et déclare la chose suivante. Ce conflit est un conflit politique, national, territorial. Ce n'est pas un conflit religieux. Mmh. Si ça devient un conflit religieux, s'il est compris comme un conflit religieux, alors c'est une catastrophe terrible parce qu'il n'y aura pas de solution. Mmh. Et que donc il faut maintenir le cap sur le conflit territorial et politique. Mmh. Depuis cette époque-là, en 1924... jusqu'à nos jours, c'est-à-dire jusqu'au 7 octobre, c'est devenu le paradigme de toute la classe politique israélienne. Mmh. On n'a pas le droit de dire que c'est un conflit religieux. Et quand je dis qu'on n'a pas le droit, ça va très loin. Non seulement c'est chaque fois que quelqu'un soulève, surtout dans les 30 dernières années, ou 40 dernières années, l'idée qu'il y a un conflit religieux du point de vue de l'islam, peut-être notre point de vue à nous, chacun a un point de vue différent en Israël, on est une société pluraliste. Mais en face de nous, nous avons des gens qui sont déterminés à agir en fonction de l'islam. Mmh. Et alors, en conséquence de quoi, non seulement chaque fois que quelqu'un soulève l'idée qu'il y a un conflit religieux. Alors, il est accueilli par des sourires méprisants, des grands spécialistes, des professeurs d'université, des chefs d'état-major, de la classe politique, qui dit « mais non, ce sont des mots, il n'y a rien derrière tout ça. La réalité, c'est la réalité politique, économique, financière, etc. etc. » Et c'est ça qui est réel, c'est ça qui est concret, etc.
Mais ce que vous décrivez, c'est plus que juste un paradigme politique. Apparemment, c'est aussi un paradigme académique. C'est-à-dire que dans l'académie, dans la classe pensante, de la société israélienne, aussi on refuse de voir cette chose-là.
Non seulement on le refuse, mais ça va très loin. Parce que non seulement on bâtit une réalité virtuelle, mais on fait tout pour qu'elle s'impose comme une réalité, ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire que par exemple, à l'université, dans toutes les universités israéliennes, le sujet central qui est celui du djihad, du droit musulman, du Coran, du hadith, est de plus en plus repoussé et interdit de séjour, en fait. On ne peut même plus étudier ces textes. On étudie les événements du Moyen-Âge, à Vicennes et à Véroès, si vous voulez. Et puis inversement, Megamot Béachaz, les tendances dans l'OLP, toutes sortes de développements comme ça autour du sujet. Mais le sujet principal est interdit, je n'hésite pas à employer ce mot, interdit d'accès.
Essayons nous d'ouvrir ce sujet-là. C'est-à-dire que vous, ce que vous dites, c'est qu'au niveau des fondements même de la vision de l'islam, il y a un projet qui est un projet politique, qu'on va peut-être appeler ici le djihad. Est-ce qu'on peut maintenant ouvrir cette notion-là et l'expliquer ?
Oui, tout à fait. Mais avant, il y a trois ou quatre introductions que je dois absolument dire pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Le premier point, et ça c'est un élément essentiel, c'est quel est le fondement, quel est le cœur de la pensée islamique, le cœur de non seulement de la pensée mais de la vie islamique. Ce cœur là c'est le sentiment de la toute puissance divine qui repose, qui écrase l'homme même.
C'est ça l'expérience religieuse.
C'est l'expérience religieuse, c'est celle qui donne un goût à la vie.
Paradoxalement un peu peut-être.
Pas paradoxalement, parce qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose que lorsque le musulman, par exemple, se prosterne 5 fois par jour, bien, il la face contre terre, il a le sentiment de rejoindre la volonté divine. Cette volonté divine qui s'exprime de différentes manières, on va le voir, mais qui d'abord repose sur lui et je dirais même l'écrase, mais ce sentiment d'écrasement est le cœur de la jouissance spirituelle dans l'islam.
Ok.
Et ça, c'est commun à tous les musulmans. C'est ce qu'on appelle le qadr, la toute-puissance divine.
Okay.
L'homme se prosterne 5 fois par jour, le visage contre terre. Qu'est-ce que ça signifie qu'il se prosterne le visage contre terre ? Se prosterner le visage contre terre, c'est effacer le visage. Le visage est l'expression de l'individualité et l'expression du libre-arbitre. Nos sages disent... je dis en hébreu, Baruch Chacham Arazin, chez NPNM, chez Domot, chez NADOMOT, V DOTM Shonot. C'est-à-dire que le béni soit celui qui est le sage des secrets, parce qu'il a créé une infinité d'individus, dont chacun a un visage différent et une conception du monde différente. Et bien, c'est cette chose-là qui est effacée. Lorsque le musulman se prosterne contre terre, 5 fois par jour, il renonce à son libre arbitre. D'ailleurs, islam veut dire d'abord soumission, comme chacun le sait, mais il signifie également la restitution de quelque chose. Aslama en arabe signifie rendre quelque chose à quelqu'un. Et ici, c'est évident.
C'est quoi, rendre le pouvoir ?
Il rend son libre arbitre, son illusion du libre arbitre, il rend son individualité au créateur. Et il devient à ce moment-là un seul corps collectif. C'est la raison pour laquelle l'image qu'on voit des musulmans lorsqu'ils prient, c'est l'image d'une réalité globale. Ils sont tous ensemble dans la même disposition et tous ensemble unis dans cette espèce d'uniformité qui est l'expression du fait qu'ils sont tous ensemble soumis de la même manière à la volonté de Dieu. C'est un premier point qui est extrêmement important parce qu'il est la clé de tout le reste. À ce sujet, il convient de rappeler qu'il n'y a pas en islam de libre arbitre. Le libre arbitre, qui est tellement important pour nous, Maïmonide dit que si tu dis qu'il n'y a pas de libre arbitre, alors toute la Torah est une plaisanterie, etc., etc. Et bien, cette chose-là, qui nous paraît une évidence, n'existe pas en islam.
J'arrive pas à concevoir en fait comment on peut avoir un message qui est un message au final qui est un message normatif, puisque l'islam a des mitzvot, a des commandements, alors qu'il considère qu'il n'y a pas de libre arbitre. Donc on commande qui ?
Tout à fait. Alors il y a eu au Moyen-Âge, au haut Moyen-Âge, des débats sans fin entre Mu'tazili, Tasharia, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais entre différents courants théologiques, s'il y a ou pas libre arbitre. Mais finalement la chose était tranchée, et c'est pas par hasard, qu'il n'y a pas de libre arbitre, et qu'on y a l'illusion d'un libre arbitre. C'est l'illusion d'un libre-arbitre. Ça nous est très difficile à comprendre comme juifs, puisqu'on est tellement imprégné de cette idée du libre-arbitre. Mais c'est comme ça que, c'est comme ça dans le fond, tout est maktoub, tout est décret divin, y compris le bien et le mal que l'homme fait. Il est soumis finalement entièrement à la toute-puissance divine et à la volonté divine.
Alors peut-être par ignorance, mais que je vais dire ça, mais il me semble avoir compris que entre les deux grands courants de l'islam, la Sunna et la Shia, entre les sunnites et les chiites, il y en a un des deux, il me semble, qui accepte la réalité du libre arbitre.
Oui, c'est exact.
Mais
c'est
ce que vous dites, c'est que qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas la réalité de libre arbitre, ce libre arbitre-là doit être sacrifié au divin.
Oui, c'est très bien vu, mais c'est exact que, à la différence de la Sunna, qui représente quand même près de 90% des musulmans, les chiites considèrent que l'homme a un libre arbitre. Encore une fois, ça remonte à des choses très anciennes du Moyen-Âge, mais c'est effectivement bien vu. D'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que comment s'appelle chez nous la prière ? La prière, le cœur de la prière, je ne parle pas des psaumes qu'on dit ou du Kriyat Shema, qui est l'unité de Dieu, mais la prière, la rencontre de l'homme et de Dieu, c'est un nom.
Hamida.
C'est la Hamida. C'est-à-dire qu'on est debout, on n'est pas prosterné. Même lorsqu'on se prosterne dans l'Amida par rapport à la toute-puissance divine, eh bien jamais l'homme ne renonce à son individualité, à son libre-arbitre. Et on le voit, c'est depuis Abraham. « Italer lefana eveyet amid »« Va devant moi, va », c'est-à-dire « marche ». Soit devant moi, dit Dieu à Abraham.
L'importance de l'initiative et de la place qu'il laissait à l'action de l'homme.
L'histoire d'Abraham avec Sodome, etc., où il y a eu une discussion très vive entre lui et Dieu, si on peut dire, à ce sujet. À aucun moment, l'homme ne renonce à son libre arbitre. Il reçoit sur lui la toute puissance divine, c'est une chose, mais il ne renonce pas à son individualité, à son libre arbitre. Je pense que c'est la pierre d'achoppement principale, en vérité, dans le fond, avec l'islam. C'est-à-dire, est-ce que l'homme est un homme responsable et individuellement ou pas ? C'est la question. Bien, alors, ça, c'est le premier point. Le second point, c'est le fait que il n'y a pas non plus de morale absolue dans l'islam. En effet, tout ce qu'on appelle la morale, c'est le comportement, on apprend, c'est le comportement du prophète, de Mahomet, qui est d'un côté un être créé. Il ne s'agit pas d'une divinité, comme c'est un peu le cas dans le chiisme ou dans certains courants chiites, mais il est donc un homme créé qui va naître et mourir. Mais il est la perfection même sur terre. Aucun homme ne peut être plus parfait que Mahomet. Et tout ce qu'il a fait est le modèle par excellence de la conduite des musulmans. Il est ce que les musulmans appellent le Ramz, c'est-à-dire le modèle par excellence à imiter dans tous les domaines. Et ça va très très loin, puisque la conduite de Mahomet est extrêmement problématique pour nous, parce qu'il a eu des comportements d'une sauvagerie incroyable, à part ça, qui sont l'expression d'une certaine réalité bédouine à l'époque, mais ça a été sanctifié par la personne de Mahomet, et finalement, ce qui était une éthique et un comportement à l'époque des bédouins, d'avant Mahomet, etc., va devenir quelque chose de sacré dans l'islam, quelque chose à imiter absolument.
Alors, est-ce que ce qu'on appelle la loi islamique, la charia, c'est tout simplement la législation de façon formelle des comportements de Mahomet ?
Pas exactement, puisque il y a le Coran lui-même, et il y a le hadith, c'est-à-dire les récits qui sont autour de la vie de Mahomet, en particulier dans la sira, ce qu'on appelle la biographie de Mahomet, et le droit musulman lui-même. Donc tout ceci va dans le même sens. Mais lorsqu'il y a conflit, lorsqu'il y a question, c'est toujours le comportement de Mahomet qui est considéré comme étant suprême.
Et on essaie de prendre un exemple. Donc, on a un récit, par exemple, où Mahomet va dans une de ses conquêtes décapiter, violer, etc. Ça devient un comportement qui est un comportement éthique parce que Mahomet l'a fait.
Oui. Oui, alors beaucoup de versets.
Ça pose pas. J'essaie d'imaginer, de me mettre dans les pieds de quelqu'un de sincère intellectuellement de l'autre côté. Ça pose pas une espèce de difficultés internes en disant « moi je ressens à quel point c'est barbare et terrible, comment on peut dire que c'est ça la morale ?»
Eh bien, alors, il y a beaucoup de versets qui vont se sens dans le Coran et qui insistent pour dire « Allahu a'lam, Dieu sait plus que toi. Tu okay. crois savoir ce qui est bien, Dieu sait plus que toi, et ce que fait Mahomet, c'est ce que veut Dieu. » Donc, il y a même un verset qui...
Donc, tu annules ta conception morale, en fait.
Oui, il y avait un verset qui est très important dans le Coran, dans le chapitre 9, sur le djihad, justement. Il dit « Partez en djihad, même si vous haïssez la guerre. « Wahin kuria alaykum » Même si vous détestez l'idée de partir en djihad. Ouais, mais vous devez le faire parce que Dieu sait ce qui est bien pour toi.
Mm-hmm. Wow. Et, on enlève tous les freins, en fait.
Donc, c'est très problématique. Ça pose un vrai problème, entre parenthèses, aux quelques musulmans de par le monde qui sont réticents vis-à-vis de tous ces aspects-là, mais ils sont soumis à la contrainte de l'islam, tel qu'il est. Il ne s'agit pas de courants idéologiques extrêmes, on se paye de mots avec islam fondamentaliste, islam extrême, islam politique. Il s'agit de l'islam lui-même.
C'est un point qui est très important, et le fait qu'on y reviendra plus en profondeur, ça m'intéressera peut-être plus tard qu'on vienne sur cette question-là qui est à quel point ces conceptions-là, en particulier les conceptions d'un djihad armé, d'une conquête du monde pour faire en sorte que tout le monde accueille l'islam, à quel point c'est quelque chose qui est répandu, évident, pour la plupart des musulmans, pour la plupart des autorités musulmanes, entre guillemets, fidèles ou orthodoxes.
Bien, c'est difficile à dire parce qu'on ne connaît pas toujours les positions de chacun. Il y a des individualités partout dans le monde. Seulement, globalement, on peut dire que dans l'ensemble du monde musulman, il y a une adhésion totale à ces dimensions-là. Parmi les musulmans, les nombreux musulmans qui sont installés aux États-Unis ou en Europe, il y a de plus en plus de tiraillements à ce sujet chez certains. Et ils ont du mal à essayer de rejoindre les deux bouts. Je reviendrai un petit peu sur ce sujet après coup. Le troisième point qu'il faut soulever, qui a l'air un peu différent, mais qui est en vérité tout extrêmement lié, c'est que alors que nous sommes habitués, de notre point de vue juif et finalement occidental, parce que l'Occident a pris ça du judaïsme, c'est-à-dire que la lumière est devant nous. C'est-à-dire que le progrès humain est possible. Il y a de nombreux versets chez les prophètes. Voici venir des jours où le loup règnera avec l'agneau, etc. Voici venir des jours. C'est-à-dire que les choses vont changer, les choses vont s'améliorer, on va vers une plus grande lumière. C'est l'idée du progrès, en vérité, qui était complètement étranger à la notion occidentale gréco-romaine, dans tous les cas. Et puis qui a été introduit progressivement par la connaissance des textes juifs, des prophètes et hébraïques, et lentement cette idée s'est imposée de plus en plus en Occident aussi. Mmh. En islam, la lumière est tout entière derrière. C'est-à-dire que l'humanité a eu le privilège de connaître entre 622 et 632 à peu près, 10 années d'extase. Dans laquelle il y avait présents sur Terre des personnalités hors du commun, exceptionnelles, bien sûr Mahomet, mais également ses proches, ses femmes, sa famille, ses alliés immédiats, etc., qui ont eu un comportement idéal. Et donc, ce qu'on peut faire de mieux, c'est de revenir vers cette lumière dans le passé. C'est-à-dire qu'il faut, pour avancer, il faut tourner la tête. C'est-à-dire que c'est derrière nous que c'était mieux, dans tous les cas. C'est ce qu'on appelle en arabe « salaf ». Salaf, ça signifie ce qui est derrière soi. Et donc, ce qu'on appelle les salafistes aujourd'hui, c'est de manière générale ceux qui insistent particulièrement sur un comportement de plus précisément copié sur le prophète et ses compagnons. Ça va quelquefois jusqu'à des dimensions qui nous paraissent même ridicules. Par exemple, Mahomet ne prenait pas de brosse à dents, mais se nettoyait les dents avec un cure-dents, une espèce de pièces de bois, et donc vous voyez souvent chez les gens qui se promènent en camis, c'est-à-dire c'est la même chose, c'est donc chemise blanche qu'ils ont en général, c'est avec, sur le rebord ici, ils portent un cure-dent.
Okay.
Et c'est ça, c'est vrai pour la forme de la barbe, c'est vrai, mais enfin, et surtout des choses beaucoup plus importantes, qui est le comportement général vis-à-vis des étrangers, vis-à-vis de tous, et ça c'est ce qu'on appelle le salafisme. Le salafisme, c'est une espèce d'exacerbation de cette tendance très ancienne, très, très profondément ancrée dans l'islam, que la lumière est derrière soi.
Mmh. Alors, est-ce qu'il y a un effort général pour revenir à cette période-là? J'ai du mal à conceptualiser qu'on puisse en masse penser qu'il faut revenir en arrière. C'est-à-dire que On ne peut pas revenir en arrière, c'est un point de vue technique, on n'a pas de machine à remonter le temps, et quoi qu'on fasse, on ne retournera pas en 622 ni en 623. Et comment est-ce que, dans l'islam, c'est conceptualisé l'effort de retour en arrière, à part récupérer des petits comportements? Est-ce qu'il y a une idée globale de comment est-ce qu'on ramène le monde à cette période?
Alors, il est évident qu'à l'époque moderne, finalement, les musulmans, ça n'a pas toujours été le cas, ont accepté la modernité sous la forme technologique, par exemple. Et ils utilisent tous les moyens des Occidentaux. Mais sur le fond des choses, sur le comportement humain essentiel à l'intérieur de l'islam et dans la relation avec l'autre, c'est ce comportement ancien qui est la clé de tout.
Donc sur des détails de technologie ou de la vie, oui, de la vie quotidienne, alors c'est pas très important, mais ce qui est important, c'est dans le rapport à ça dépend, j'imagine qu'il y a une gradation.
Ça s'est pas fait sans heurts. Je vais vous donner un exemple. En hébreu, le mot chidouche, renouvellement, est un mot positif. On dit, il n'y a pas d'école de Talmud sans chidouche, sans renouvellement de sens. En bet midrash belo chidouche. Le chidouche, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui va renouveler la connaissance que nous avons de la Torah, du monde, etc. En islam, le mot chidouche est entièrement négatif. C'est bid'a, ça s'appelle. C'est une innovation coupable. Et par exemple, alors ça va très, très loin, lorsqu'on a découvert le pétrole en Arabie et dans ces régions-là, c'est poser réellement la question, est-ce qu'on a le droit de le sortir sur Terre, puisque Dieu l'a mis là-bas. C'est-à-dire, c'est une bida. Alors, finalement, les intérêts étaient tels ça s'est réglé. Mais ça donne une idée un petit peu de la difficulté qu'ils avaient finalement, ils ont accepté complètement la technologie, mais pas au niveau humain, pas ce qui se passe au niveau humain.
Alors, pour reprendre le fil, donc là, vous avez donné trois introductions.
Oui.
Avant de passer au propos qui est la conception de l'islam, qu'on appelle l'islam politique, qui est sa vision du djihad et de la conquête.
Voilà. Alors, maintenant, on arrive effectivement au cœur du sujet. Le cœur de notre sujet, c'est que l'islam a une conception géographique politique du monde. Il s'agit d'une religion universelle, c'est-à-dire qui s'adresse à l'ensemble de l'humanité, à l'ensemble de la planète plus exactement, mais cette universalité ne concerne pas les personnes, mais le territoire. C'est la différence avec le christianisme, qui est une religion essentiellement privée, dans ce sens, même si elle a eu des développements politiques considérables. Mais dans le fond des choses, le christianisme s'adresse à l'individu et au salut de son âme. Ici, dans l'islam, l'universalisme est territorial. Alors, de quoi s'agit-il? Le monde tout entier, et encore une fois, c'est ça, le monde tout entier, c'est ça l'universalité, est divisé en deux. Toute parcelle de territoire sur lequel l'islam règne s'appelle Dar al-Islam, la maison de l'islam. Et cette réalité de l'islam s'exprime d'abord d'un point de vue politique, militaire et juridique. C'est de ça dont il s'agit. Contrairement à l'image qu'il y a quelquefois souvent folklorique, que le Dar al-Islam, c'est l'endroit où il y a de la musique arabe, on mange du houmous, je ne sais pas. Non, c'est un sens très précis. Dar al-Islam, c'est l'endroit où règne l'islam. Ça s'appelle Dar al-Islam. Et tout endroit qui n'est pas soumis aux droits musulmans, au pouvoir des musulmans, s'appelle Dar al-Harb, la maison de la guerre. Pourquoi? Parce qu'il existe une obligation faite à l'ensemble de la communauté des croyants de mener une guerre jusqu'à la fin des temps, pour que le Dar al-Islam conquiert le Dar al-Harb. C'est ce qu'on appelle le djihad. Donc le djihad n'a pas du tout pour but de convertir les gens à l'islam, mais d'étendre le territoire qui est sous la domination de l'islam. À l'intérieur de ce territoire, bien sûr, il y a des lois, des règlements, etc. Mais le but, c'est l'extension territoriale. Et c'est le sens de djihad. Djihad signifie fondamentalement la réunion des efforts. Djihad, c'est faire un effort. Pourquoi? Parce que l'ensemble des efforts humains, d'abord militaires avant tout, mais également moraux, économiques, propagande, enfin, tout ce que vous voulez, tout est soumis à cette obligation suprême qui s'appelle le djihad. D'ailleurs, le mot djihad est peu employé dans le Coran. C'est pas ça qui est le mot qui est employé. Le mot qui est employé par les musulmans eux-mêmes, d'ailleurs, toujours, c'est Sabil Allah, le chemin de Dieu. Chaque fois que quelqu'un meurt dans un conflit avec l'armée israélienne ou n'importe quoi, on dit dans la presse arabe locale, y compris la presse palestinienne dite laïque, Istash Hada Fisalilallah. C'est-à-dire qu'il est devenu shahid, saint, témoin, dans la voie de Dieu, Sabilallah. Pourquoi Sabilallah ? Parce que c'est le chemin royal que Dieu veut. C'est ça qu'il veut, Sabilallah. Et donc, alors il faut se rappeler que l'ensemble des musulmans du monde entier ne forment qu'une communauté. Ça s'appelle Ummat al-Muslimin. Pour les musulmans authentiques, la répartition entre États différents, entre dynasties différentes dans le passé, etc., est une hérésie. C'est ce qu'on appelle fitna. C'est une hérésie parce que fondamentalement, cette communauté des musulmans, l'ensemble des musulmans forment une seule nation, Ummat al-Muslimin, et cette nation a un cadre politique précis qui est le califat. C'est ça qui est l'idéal des musulmans. Donc on comprend pourquoi l'abrogation du califat par Atatürk était tellement catastrophique à ce moment-là. Bien que le califat à l'époque était tout à fait marginal, mais il existait théoriquement en tout cas.
On a cette obligation de conquête qui est claire et sans équivoque au niveau des fondements de l'islam.
Oui, alors c'est encore un point très important. Il y a 5 obligations positives dans l'islam. Elles sont toutes connues, c'est la proclamation de l'unité divine qu'on fait à chaque prière, la prière elle-même, le jeûne du ramadan, l'aumône légale, la zakat, et enfin le hajj, l'aliyah, la montée à le pèlerinage à la Mecque. Toutes les autres obligations dans l'islam sont négatives, sont des interdits très durs qui existent, mais multiples, ce qu'on appelle hudud, had, mais positivement, il n'existe que 5 obligations. Et l'obligation du djihad a ceci de particulier qu'elle ne s'adresse pas à l'individu, comme ces 5 obligations, c'est l'individu qui doit prier 5 fois par jour, etc., mais à l'ensemble de la communauté, à l'ensemble de la nation de l'islam.
Okay. C'est la seule obligation collective qu'ils ont ?
C'est la seule obligation collective. Fard kifaya, comme ils disent, c'est une obligation collective. Maintenant, ce qui a été nouveau avec les frères musulmans, c'est que Hassan al-Banna a dit que vu la situation dans laquelle l'islam est tombé, aujourd'hui, le djihad est devenu une obligation individuelle. C'est-à-dire que chacun peut prendre l'initiative de tuer un mécréant, si c'est dans le cadre du djihad, etc. Ce qui avant était réservé était le privilège de la nation, mais ça veut dire quoi de la nation ? Des dirigeants politiques.
Ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait un roi ou un dirigeant qui mène une armée et qui lance un djihad.
Et sur ce point-là, par exemple, il peut y avoir aujourd'hui des musulmans fidèles, mais qui disent, sur ça, on n'est pas d'accord avec
Hassan al-Banna. C'est un des rares points sur lequel il y a réellement controverse entre l'islam des frères musulmans et toutes sortes d'islam qui ne sont pas...
On pourrait dire que l'islam qui n'est pas celui des frères musulmans, eux vont dire, pour l'instant, on n'est pas obligé de faire de djihad parce qu'il n'y a pas de califat.
Oui.
Donc on n'est pas obligé, on peut rester tranquille et vivre en France, en Angleterre, etc., puisqu'il n'y a pas aujourd'hui un califat qui centralise cette obligation.
C'est exactement le cas. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Donc, cette obligation du djihad, elle est absolue et elle est sans limite. Les textes du droit musulman sont très clairs. Tark al-qital mamnoua, c'est-à-dire on ne peut pas abandonner le combat. On doit combattre sans arrêt jusqu'à la victoire finale. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a victoire des musulmans, c'est-à-dire qu'ils pénètrent dans le territoire de la guerre ? À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle fatah en arabe, d'ailleurs c'est pour ça que le fatah s'appelle fatah, c'est à cause de ça, parce que normalement ses initiales disaient autre chose, ils désignaient la mort, ils disent hatf, mais ils disent fatah. À cause de ça, il s'agit d'une ouverture, fatah c'est comme en hébreu, c'est une ouverture, c'est-à-dire une ouverture du Dar el-Islam sur le Dar el-Kharb. Alors à ce moment il se passe quelque chose de très intéressant, ceux qui sont considérés comme étant des idolâtres, c'est-à-dire des gens, mais idolâtres, c'est-à-dire ceux qui se prosternent devant les idoles, si vous voulez, vraiment, oui. Eux n'ont pas le choix, ou ils se convertissent à l'islam, où ils périssent par le glaive. Mais les juifs et les chrétiens ont un statut très particulier. Ils ont été, puisqu'ils ont bénéficié d'un livre révélé, la Torah ou les évangiles pour les chrétiens, et antérieur à l'islam. Alors c'est vrai qu'ils ont falsifié les écritures, c'est surtout vrai des juifs qui sont accusés d'avoir falsifié les écritures, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se fier au contenu de la Torah, etc. Mais il n'empêche que Dieu leur a accordé avant l'islam une espèce de don de cette loi révélée qui fait qu'ils ont une espèce de statut particulier. Ce statut fait qu'ils ont la possibilité, au moment des combats, de lever les bras et de dire « je me soumets à l'islam ». Non pas « je me convertis à l'islam », on n'exige pas ça ni des juifs ni des chrétiens, c'est interdit d'utiliser la violence pour la conversion. Dans la jabra bit fiddin, il n'y a pas de contrainte dans la religion. C'est ça l'origine de cette expression qui disent que tout le temps que l'islam ne connaît pas la contrainte, ça signifie que dans le moment des combats, on ne peut pas contraindre les gens à se convertir.
À part pour les idolâtres.
Pour les idolâtres, c'est la notion d'idolâtre a été la notion de peuple du livre a été à travers l'histoire souvent accordée à différentes populations. En Inde en particulier, il y a eu des grands débats, est-ce qu'ils sont considérés vraiment comme idolâtres ou pas comme idolâtres. Mais enfin, fondamentalement, c'est les juifs et les chrétiens. Et donc, ceux-là peuvent se garder leur religion, mais ils doivent se soumettre à l'islam. Cette soumission à l'islam s'appelle dhimma. C'est-à-dire être dhimma veut dire, c'est un mot qui à l'origine n'est pas négatif, il signifie être sous l'égide de. Par exemple, je me souviens d'un titre d'un journal arabe, lorsque Hassan II est mort, le roi du Maroc, le journal arabe avait écrit Hassan al-Thani fi dhimmat Allah. Hassan al-Thani est sous l'égide de Dieu, c'est-à-dire qu'il est mort, il est en haut sous l'égide de Dieu. C'est ça le premier sens. Donc dhimma peut s'accorder, peut se rapporter également à un musulman. Mais le sens fondamental de la dhimma, c'est qu'il s'agit d'un contrat. Il s'agit d'un contrat très précis. La vie leur est accordée, la vie sauve leur est accordée, et la préservation de leurs biens, de manière générale, à la condition d'accepter toutes les lois de la soumission à l'islam, les lois de la dhimma, ce qu'on appelle ahkam al-dhimma, les lois de la dhimma, et qui sont très précises également. Le premier, le plus important de tous, c'est la soumission au pouvoir des musulmans. C'est-à-dire que ne jamais créer d'unité politique ou militaire à l'intérieur de l'islam. L'islam a l'absolu monopole de tout pouvoir. Et les juifs et les chrétiens doivent se soumettre complètement à ce pouvoir des musulmans. Et les textes du droit musulman vont très loin. Ils disent même être responsable de la répartition de l'eau dans les marchés. Aucune bribe de pouvoir ne doit être accordée aux juifs ou aux chrétiens sur les musulmans. Et ça, c'est l'idée fondamentale de la dhimma. Alors, premièrement, il y a aussi, évidemment, certains mettent ça en premier lieu, c'est le paiement de la capitation, c'est-à-dire d'un impôt par tête de PIB, qu'on appelle la jizya, et qui s'accompagne d'une cérémonie d'humiliation. Et ça, c'est fondé sur un verset du Coran, qui disent qu'il faut les combattre jusqu'à ce qu'ils se soumettent et payent la jizya de leurs mains en étant humiliés. Okay. Alors ça, au Moyen-Âge, pendant très longtemps, c'est accompagné d'une cérémonie dans laquelle on dit le juif qui portait la jizya recevait une gifle ou un coup de pied au derrière, enfin tout ce que vous voulez. Okay. C'est donner une forme à cette humiliation, mais cette humiliation, elle est dans la réalité tous les jours. C'est un point très important. Non seulement il n'y a pas de pouvoir sur les musulmans, mais toute la conduite doit exprimer l'humiliation. C'est-à-dire ne pas porter de vêtements clairs, par exemple. Certainement pas le vert, qui est la couleur de l'islam, du paradis, etc. Avoir des maisons plus basses que celles des musulmans. Si un musulman va à dos d'âne ou à dos de cheval, tu dois marcher à pied à côté. Il y a une longue liste comme ça qui a beaucoup varié à travers l'histoire, selon les régions, etc. Mais qui, tous ensemble, vont dans le même sens. Il y a un hadith, c'est-à-dire un enseignement oral de Mahomet, qui résume l'ensemble de ces doigts-là, qui disent, dans tout endroit, dans toute situation, l'islam, yurli, voilà, yurla. L'islam doit être en haut et jamais en bas. Donc en bas, c'est les juifs et les chrétiens.
J'ai une question d'ordre théologique sur ce point. Ce fait-là, cette obligation-là, que l'islam, en tant que politique, c'est-à-dire en tant que politique, doit toujours être en haut, et ce qui reste de non-musulmans dans le monde, les juifs et les chrétiens, doit toujours être en bas, cette infériorité qu'on impose aux juifs, est-ce qu'elle reflète le même point théologique, le premier point de l'infériorité fondamentale de l'homme par rapport à Dieu, de l'écrasement de l'individualité par rapport à Dieu, mais juste étendu à un niveau collectif?
Oui, alors ça c'est très intéressant, effectivement. Je disais tout à l'heure une explication du fait que les pays musulmans sont tous des États totalitaires. En fait, l'expression de la forme politique est le reflet d'une vision théologique. C'est vrai dans tous les cas, c'est vrai, etc., c'est vrai du christianisme, etc. Et ici, ce qui s'exprime, c'est la toute-puissance de Dieu, qui est la toute-puissance des musulmans sur les non-musulmans. C'est la même démarche, fondamentalement. Et donc, ce pouvoir s'exprime tous les jours. Maintenant, c'est la raison pour laquelle l'État d'Israël a ici et représente une abomination absolue. Pourquoi ? Parce que c'est un État des dhimmi, c'est-à-dire des gens qui auraient dû être soumis aux musulmans. Ils ont pris les armes et se sont révoltés contre le statut des dhimmi. Ils ont créé un État dans lequel les juifs ont le pouvoir sur les musulmans, les arabes israéliens, par exemple. Et deuxièmement, Deuxièmement, ce n'est pas seulement l'état des ennemis qui s'est imposé, mais c'est l'état des juifs. Et les juifs sont considérés comme les ennemis des ennemis. Pourquoi ? Parce que ça remonte à très loin, puisqu'à l'origine de l'islam, on le voit très bien dans le Coran, il y a Mahomet tire sa légitimité vis-à-vis des bédouins non musulmans de la conformité de ce qu'il dit à la Torah. Il dit « Ce que je vous ai apporté est en pure conformité, musaddiqan, est en pure conformité avec la Torah. Donc vous devez accepter ce que je viens de faire, ce que l'islam. » Et il y a même un verset absolument incroyable aujourd'hui, quand on écoute ça, c'est que aujourd'hui les ulémas, comme on dit, les ulémas, c'est les sages de l'islam, les docteurs de la loi en islam, ça vient du pluriel du mot alim, ulama, ceux qui savent. Mmh. Et il y a un verset du Coran qui dit, si vous ne me faites pas confiance, il s'adresse aux bédouins, si vous ne me faites pas confiance, demandez aux ulama bani Israël, aux ulama des bani Israël. Ils vous diront que je ne fais que vous dire la vérité, que ce que je dis dans le Coran est en pure conformité avec la Torah, qui est la légitimité de la révélation divine.
Est-ce que c'est lié au fait qu'il y a cette histoire de falsification des textes? Parce que d'un côté, si dans le Coran c'est écrit noir sur blanc, que la légitimité de l'islam vient est tirée de la Torah qui en fait la doctrine des bénis Israël, c'est un peu contradictoire parce qu'il y a des contradictions entre ces deux textes.
Bien sûr, il y a des contradictions, ce que les juifs à l'époque, alors qui étaient au milieu de ce débat entre bédouins infidèles, entre bédouins idolâtres et Mahomet, et qui tiraient les juifs au milieu en disant tous ans, dites-leur que je dis la vérité, dites-leur que je dis la vérité. Alors les juifs, on a le témoignage par la tradition musulmane, parce qu'on n'a aucun autre témoignage, puisque les juifs ont été exterminés finalement par Mahomet, donc il n'y a pas de témoignage de la part des juifs. Mais les juifs disent, mais il y a des tas d'endroits où c'est en contradiction totale avec la Torah, je ne veux pas rentrer dans des détails, mais il y a des détails très frappants. Bon, je ne vais pas rentrer. En tout cas, donc ils disent non, c'est pas possible. Tu ne peux pas être considéré comme étant un prophète authentique. Il y avait une autre raison qui nous est pas dire, mais qui est pas moins importante, c'est qu'un prophète est quelqu'un qui a un statut moral très élevé. Mmh. Et le comportement de Mahomet comme bédouin était loin d'être un modèle de pureté éthique, si je puis dire. Et donc ils disaient non, ils n'ont pas reconnu là-bas. Alors à ce moment-là, Mahomet s'est acharné contre les Juifs, à ce moment-là il s'est retourné complètement par rapport à ce qu'il disait avant. Avant il essayait de les rapprocher un petit peu en acceptant par exemple que l'on prie en direction de Jérusalem plutôt que sur la Mecque, en imposant à un jeûne le 10 du mois de Muharram, ce qui en fait penser au 10 de Kippour, de Tishri du jour de Kippour. Mais alors il se retourne contre les Juifs, les maudit, et dit, entre autres choses, vous avez falsifié la Torah. Donc s'il y a une différence entre la Torah et le Coran, c'est que les Juifs ont falsifié la Coran. Si on avait la Torah authentique avant notre falsification, eh bien on verrait que c'est exactement la même chose que le Coran.
Donc au-delà de l'insulte que produit l'État d'Israël en tant que pouvoir politique des Juifs, il y a aussi juste les Juifs sont une espèce, sapent un peu, enfin le judaïsme on va dire peut-être plus clairement, sapent un peu la légitimité et la continuité du judaïsme à travers les générations. On continue à conserver le judaïsme qui conteste la vérité de l'islam, continue à être un problème en fait.
Tout à fait. C'est la raison pour laquelle les Juifs en quelque sorte ont été soumis par la dhimma, à l'interdiction de parler. Par exemple, un juif ne peut pas toucher un livre du Coran. Là, il y a le tamisuhu et l'al-mutaharin. On ne peut pas toucher un livre du Coran parce qu'on ne doit pas discuter de religion. Ici, on a un phénomène inverse de ce qui se passe dans le christianisme, où les disputations entre juifs et chrétiens au Moyen-Âge étaient fréquentes. Mais ici, il est interdit de discuter théologie avec un juif. Absolument. Il faut qu'il se taise. Et il doit se taire. Et on lui impose la dhimma. Et s'il n'est pas, s'il lève la tête, alors là, c'est grave. Parce que, là, je reviens un peu au thème de la dhimma tout à l'heure, c'est que les juifs ou les chrétiens sont protégés par le statut de dhimma à condition qu'ils respectent scrupuleusement leur statut de dhimma. S'ils lèvent un peu la tête, ils sont punis de mort, en fait. Et de manière générale, il y a une attitude qui est recommandée de violence vis-à-vis des juifs. Par exemple, un exemple très, très simple, je me rappelle que mon ami de regrettée mémoire était enfant à Damas, et tous les jours, quand il allait à l'école, on leur jetait des pierres. Ils allaient toujours, je me souviens très bien, on allait avec le cartable sur l'épaule, parce qu'on longeait la Médina, et à ce moment-là, on recevait des pierres. Pourquoi recevoir des pierres? Parce qu'il est juif, etc. Ben, c'est bien. Il faut lui rappeler quel est son statut de Dhimma. Le statut de Dhimma, c'est un statut, il est essentiellement comme ça. C'est-à-dire, je dois faire attention de ne pas être frappé. Je dois faire attention de ne pas être frappé. Tout ceci est fondé, évidemment, sur des textes du Coran et de la tradition orale qui disent qu'il faut insuffler la crainte chez les infidèles. Ils doivent toujours avoir khawf, la crainte, toujours être vigilant, toujours baisser
donc,
la tête.
Donc l'État d'Israël est l'antithèse de tout ça et,
L'État d'Israël est l'antithèse absolue de tout ça. Rajoutons à nouveau que les Juifs, non seulement sont donc, comme vous avez dit très justement, ils sont la contestation de l'islam. Parce qu'il faut bien comprendre de quoi ils retournent. Si les Juifs ont raison, l'islam est une vue de l'esprit. Et donc, il y a une espèce d'angoisse extrêmement profonde dans l'islam vis-à-vis des Juifs. Il faut qu'ils baissent la tête. Il faut qu'ils reconnaissent la vérité du Coran. De crainte qu'il apparaisse que tout n'est qu'une vue de l'esprit.
J'avais entendu qu'il y avait des textes qui, oui, disaient que la terre d'Israël était donnée au Béné Israël.
Oui, ça, je reviendrai là-dessus, c'est un sujet extrêmement important. Mais là, je suis au cœur de l'histoire de du djihad. À ça, il faut rajouter un point aussi, que donc les Juifs sont... l'ensemble des opprobres inimaginables reposent sur les Juifs, y compris d'ailleurs à l'époque moderne, tous des thèmes antisémites européens, d'origine européenne, mais qui ont été complètement islamisés, en quelque sorte. Et surtout, ils sont les ennemis de Dieu et les ennemis du prophète, ils ont assassiné le prophète.
Ah, en plus. Ah, okay.
Comment ont-ils assassiné le prophète qui est mort dans son lit en 632? C'est parce que 2 ans auparavant, une servante juive avait donné un morceau de viande empoisonné à Mahomet. Il l'a recraché tout de suite en disant c'est quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas... etc. Mais quand il est mort 2 ans plus tard, il dit je meurs du poison que m'a donné cette servante juive.
Ça, c'est écrit dans les textes.
Mais alors, c'est un hadith. Mais l'ensemble des musulmans ne le savent c'est aujourd'hui dans le monde. Puisque on a démultiplié tous les témoignages d'hostilité vis-à-vis des Juifs. Alors, toutes ces choses-là ont été remises en évidence, énormément insistées, etc. Le troisième point que j'aurais dû dire avant, d'ailleurs, etc., c'est que toute terre qui était soumise au Dar al-Islam doit nécessairement revenir au Dar al-Islam. Et il y a une priorité du djihad sur ces terres-là.
Avant de s'occuper du reste du monde, Dar al-Harb, d'abord,
exactement.
On règle
tout le Dar al-Islam. Si vous voulez, en cercle concentrique, avant de s'occuper de l'Australie, tout ce que vous voulez, il y a d'abord l'urgence des terres qui étaient avant territoire de l'islam, et en particulier, Eretz Israël.
Okay. Est-ce que Eretz Israël, il a une place tout à fait particulière, même à l'intérieur de la Mésopotamie ou le Moyen-Orient plus général?
Oui, tout à fait, je vais y revenir. Mais alors, ce qui explique pourquoi, ces trois raisons font que l'État d'Israël, c'est l'abomination absolue. C'est la raison pour laquelle les musulmans du monde entier, considèrent que la lutte contre Israël est une lutte sacrée. C'est une lutte sacrée et les atrocités commises par le Hamas ont été acclamées en liesse par l'ensemble des musulmans. On peut dire, à part des exceptions, en France, il y a eu dans d'autres pays, il y a des musulmans qui disent pas en notre nom, on est contre, etc. Mais 300 000 manifestants à Rabat, autant dans tous les pays musulmans, jusqu'à la Malaisie, dans lequel il y avait des manifestations monstres de soutien au Hamas, et puis l'appui des plus hautes autorités musulmanes, le cheikh d'El-Azhar, le cheikh Al-Tayeb. El-Azhar, c'est la plus grande université islamique, celle qui a le plus d'autorité dans le monde. C'est aussi vrai l'université Zitouni à Tunis. On applaudit, on acclamait le Hamas d'avoir fait ce qu'ils avaient fait.
Okay, donc là, vous dites quelque chose qui est terrible. Vous dites qu'aujourd'hui, après ce que le Hamas a fait, aussi barbare et aussi évident, la plupart des autorités religieuses connues dans l'islam sont d'accord et acclament ce qui s'est passé?
Oui, ils acclament ce qui s'est passé. Wow. Et pourquoi le font-ils? C'est parce que, justement, c'est pour effacer l'opprobre. C'est-à-dire que dans les atrocités commises, il y a ici la réalisation de ce qu'il faut faire aux ennemis lorsqu'ils se révoltent. Et ça s'accompagne en particulier par le viol des femmes. Les femmes ont été violées massivement, de manière atroce, parce que ce geste-là, c'est le geste de l'humiliation absolue. Et donc, il faut remettre les ennemis à leur place et insuffler la crainte chez tous les autres Israéliens, finalement, par rapport à ce qui les attend. Et donc, ce qui a été fait n'est pas seulement l'expression d'une espèce de barbarie, je dirais, naturelle, si on peut employer, mais elle correspond à une nécessité théologique, on peut dire. Il faut qu'ils sentent le poids absolu des musulmans sur eux et qu'ils retournent à l'état d'humiliation.
C'est étrange parce que malheureusement j'ai regardé quelques témoignages de terroristes du Hamas dans leur l'interrogatoire qu'on leur faisait, et l'interrogatoire lui disait, mais le fait de tuer des femmes et des enfants, c'est pas de l'islam. Il disait, non, c'est pas de l'islam, ça. Ça, c'est pas de l'islam, ça, entre guillemets. Nous, on l'a fait de notre propre chef.
Oui, alors, bon, ils disent ça, mais ils ont reçu des directives écrites extrêmement précises qu'ils devaient égorger les enfants, violer les femmes, etc., pour les raisons que j'ai dites. Par exemple, alors, on peut ajouter à ça une espèce de, ça c'est une espèce de parenthèse, ce que j'ai appelé une espèce de barbarie naturelle. On raconte dans le comportement des Bédouins, par exemple, qu'il y avait une femme au moment des combats contre Mahomet à la Mecque, il y avait une femme qui s'appelait Hind, la femme d'Abou Soufiane, enfin, je ne vais pas rentrer dedans, une autorité des gens de Mekoa contre Mahomet, qui au moment des combats contre les musulmans, mangeait leur foie, arrachait le foie du ventre, et mangeait son foie. Bon, elle s'appelle, c'est un nom très connu, Hind Hakilat El Akbad, celle qui mange les foies. Bon, alors c'est un comportement, mais qui est un comportement assez terrible. On est au Moyen-Âge, on n'est pas aujourd'hui, au 7e siècle, ouais, etc. Mais comme ça a été, en l'occurrence, c'est une ennemie des musulmans, mais tout cet ensemble de comportements s'est maintenu, propagé, continué par la sanctification de la barbarie de Mahomet vis-à-vis de ses ennemis. Il a après avoir insulté les juifs à Médine, finalement, il prend les Banu Quraïza, fait 800 tous les hommes de la tribu, après leur avoir attaché les mains et les bras, resté 3 jours dans le ravin, il fait venir Ali et Ibn Zubayr et leur dit égorgez les hommes, et ils égorgent tous les hommes, et Mahomet regarde et est très content quand il contemple ce genre de choses. Alors toute cette attitude a été, comme j'ai expliqué, sanctifiée, sacralisée à cause de l'importance de la personnalité de Mahomet, du fait qu'il a un statut très élevé. À mon sens, d'ailleurs, ce statut de Mahomet est le vrai problème aujourd'hui de l'intégration de l'islam dans une norme morale universelle. C'est le fait que c'est à cause de ce statut-là qui a été figé, justement, et qui fait qu'ils ne s'en sortent pas.
Ils ne sortent pas. Toutes
les voix qui ont essayé. Ce qui s'est passé à travers l'histoire, d'une espèce de modération progressive, si on peut dire, après la Shoah, mais enfin, il y a eu une espèce d'élévation progressive de l'humanité vers plus d'humanité. Tout a été bloqué avec le système à cause du statut accordé à Mahomet.
Est-ce qu'il y a des voies possibles de réforme de cette chose-là, ou c'est tellement fondamental que c'est inamovible?
Oui. Alors, il y a deux types de voies qui sont très, très, très importantes. Le premier point, c'est quand est-ce que les musulmans sont dégagés de l'obligation du combat. Je suis très précis ici, dégagés de l'obligation du combat, puisque l'obligation du combat est absolue. Sortez en guerre, partez faire la conquête, sinon vous irez à l'enfer. C'est-à-dire le musulman qui, citer le verset, reste celui auprès de sa femme, ses enfants, plutôt que de partir en combat, est jugé et condamné à la... En fait, à l'enfer, un enfer qui est terrible, il brûle en enfer. Inversement, ça c'est un point qui est très important, celui qui meurt en djihad et va directement au paradis. Alors là, il faut préciser, il y a au paradis le jardin d'Éden, comme on dit, il y a des cercles plus ou moins importants, etc. Et celui qui meurt en djihad, alors c'est très difficile d'accéder au paradis normalement pour un musulman. Il doit faire attention d'avoir une vie sexuelle réglée, de jeûner le jeûne du ramadan, de prier 5 fois par jour, etc. etc. Finalement, il va au paradis. Mais celui qui meurt en djihad contourne en quelque sorte tout le monde et va tout de suite au plus haut degré du paradis, du djinnah, du paradis, et qui consiste d'ailleurs en une réalité extrêmement concrète. Celui qui meurt en djihad est appelé shahid, comme on sait, c'est un mot qui est le même mot que le mot témoin, d'ailleurs, qui est, en grec à l'origine. C'est l'idée d'être témoin de la foi. Et puis, il va au paradis. Alors, il meurt et instantanément, il renaît tout de suite après la mort, au cœur du paradis, où il bénéficie de réalités matérielles. On n'est pas du tout dans le monde des âmes, etc. Il s'agit d'une réalité extrêmement concrète, avec des arbres, des jets d'eau, et puis la nourriture et les femmes, puisqu'il y a les fameuses 70 vierges qui attendent le guerrier au paradis, et qui bénéficient dans toutes les jouissances terrestres, mais à un degré infiniment plus élevé que toute jouissance terrestre. Donc le paradis est quelque chose d'extrêmement désiré en islam. Heureusement, s'il pouvait, tout homme finalement aspire à aller au paradis, puisque c'est l'endroit des délices par excellence.
Mais donc mourir au combat, ça permet d'accéder à ce paradis malgré, malgré que quelqu'un ait, par exemple, multiplié les exactions individuelles par rapport à l'islam, qu'il n'ait pas jeûné.
Oui, absolument.
Et en fait, le shahid contourne le problème de la, du comportement strict individuel par rapport aux lois de l'islam.
Et c'est extrêmement concret, d'ailleurs. C'est extrêmement concret. On a beaucoup d'exemples de gens qui ont eu un comportement islamique tout à fait contestable, mais qui finalement va en djihad, meurt en djihad. Et, alors, c'est quelque chose de très important. Le verset dit la chose suivante. Partez en djihad, partez en combat, etc. Et vous tuerez et serez tués. Yaktulu, yukatulu. C'est-à-dire, vous tuerez et vous serez tués. Et à ce moment-là, vous accéderez au paradis. Donc, les choses sont très claires. Les gens du Hamas, ils ont d'ailleurs un bandeau vert sur la tête, qui est la clé du paradis, en quelque sorte. Ils partent pour mourir. Le but des combattants du Hamas est de mourir au combat. C'est la raison, mais après avoir tué. Ils doivent tuer et être tués. Et à ce moment-là, ils vont directement au paradis.
Vous dites la seule manière pour être exempté de cette obligation-là, c'est si...
C'est si. Alors, c'est quoi si ? Alors, c'est premièrement, c'est une situation de ce qu'on appelle faiblesse des musulmans. Dhaif al-muslimin. En effet, si les musulmans qui font le djihad se trouvent dans l'incapacité de vaincre les ennemis, et surtout perdent des territoires, ce qui est le contraire absolu du but du djihad, n'est-ce pas ? Alors à ce moment-là, ils sont dégagés de l'obligation du djihad temporairement. Ils peuvent signer une trêve qui s'appelle Houdna, et ceci est appris, comme presque tout d'ailleurs, du comportement de Mahomet. En 628, Mahomet, qui combattait avec les gens de la Mecque, il était à Médine, et il combattait les gens de la Mecque, et il y avait des hauts et des bas, des victoires et des défaites, etc. Finalement, en 628, Mahomet, qui sait qu'il va mourir en 632, parce qu'il est prophète, veut accomplir le pèlerinage à la Mecque. Pour ce faire, il avait besoin de nettoyer la Mecque, qui était un sanctuaire qui avait 1000 ans d'existence. Ce n'est pas l'islam qui a bâti la Mecque. Il a purifié le sanctuaire de la Mecque. D'après la tradition, il y avait 360 idoles à l'intérieur de la Mecque, une pour chaque jour de l'année lunaire, qui est celle des musulmans. Et donc, il fallait nettoyer toutes ces idoles, qu'ils fassent le pèlerinage, etc. Il rentre en négociation avec les gens de la Mecque. Cette négociation a lieu dans un endroit qui s'appelle Hudaybiyah, qui est une espèce d'oasis entre la Mecque et Médine. Et Mahomet fait preuve d'une espèce de renoncement à tout de manière invraisemblable. Il accepte de signer son nom, Muhammad, et pas le prophète. Il accepte qu'on restitue aux Mekouas les esclaves qui avaient fui chez les musulmans, ce qui était très grave. Les esclaves étaient condamnés à mort, etc. Mais il accepte tout. Il y a une dizaine de conditions comme ça sur lesquelles il renonce à tout. La tradition dit qu'il y a une révolte dans les rangs des musulmans. Alors tu es pas prophète puisque tu renonces à tout comme ça, etc. Il dit, laissez-moi faire, Dieu sait plus que vous, Allah wa Allah, ma wa Allah. Et donc, il signe un accord de paix, d'une trêve de 10 ans. Et à ce moment-là, les gens de la Mecque se sentent tranquilles pour 10 ans et utilisent leur armée, qui était une grande armée de mercenaires, qui dont le but était d'accompagner les immenses caravanes qui allaient de la Mecque jusque dans l'Empire byzantin. Et donc, caravane pareil dans le désert, c'est comme le miel qui attire les mouches. Enfin, je veux dire, les risques de pillage étaient énormes. Et donc, ils envoient leur armée accompagner ces caravanes qui avaient jusqu'à 6000 chameaux. C'est-à-dire, pour nous dire une idée, c'est le grand commerce international de l'époque. Et alors, Mahomet apprend que la Mecque est vide de ses hommes. Il n'y a pas d'hommes en armes. Il rassemble ses hommes et conquiert la Mecque. Tout de suite, on dit qu'il y avait un mort par hasard, etc. Et la Mecque a été comme ça. Vaincu par ça. Donc, c'est le modèle. Alors, pourquoi c'est important ? C'est pas un événement historique qui s'est passé en 630, lors de la conquête de la Mecque. C'est un événement qui est entré dans le droit musulman. C'est-à-dire qui est le modèle par excellence de celui qui sait agir avec sagesse et avec ruse pour vaincre l'ennemi. C'est le fond de la discussion entre le Hamas et l'OLP. L'OLP a exactement le même projet que le Hamas, qui est de vaincre Israël. Ils enseignent aux enfants depuis qu'ils sont enfants à tuer les Juifs, à les vaincre, tout ce que vous voulez. Et le but de l'OLP, c'est clairement le démantèlement, la destruction de l'État d'Israël. Mais, et puis ils financent les terroristes, enfin c'est bien connu, mais il y a une discussion interne entre le Hamas et l'OLP. Les gens du Hamas disent, nous partons en djihad, nous faisons le djihad comme il faut, pas comme vous qui êtes vendus aux Américains, etc. Et les autres lui répondent, pas du tout, toi tu es une tête brûlée, tu fonces contre le mur, et moi je fais comme Mahomet, c'est-à-dire j'agis avec sagesse, avec ruse, je fais signer des accords, les Israéliens s'affaiblissent, et à ce moment-là, le jour venu, on pourra l'emporter sur eux. C'est ce qu'a dit Yasser Arafat, à Johannesburg, à la grande mosquée de Johannesburg, après avoir signé les accords dits d'Oslo, on lui dit, mais comment as-tu pu signer les accords avec les infidèles? Il dit, non, j'ai fait comme Mahomet. J'ai signé les accords de Hudaybiyah.
Alors ça c'est vraiment nouveau, parce que pour la plupart des commentateurs occidentaux, l'OLP est vu comme ayant plus un projet national, un projet territorial, pas ayant un projet religieux, et ils sont vus comme des partenaires, entre surtout guillemets, légitimes.
Un facteur modéré.
Voilà, exactement.
C'est une vue de l'esprit. Ce qui se passe dans la vision qu'a le monde occidental de l'OLP, je n'ai du mal à faire la part entre une espèce d'extraordinaire naïveté et la perversion qu'il y a à piéger Israël dans un système qui entraînera sa disparition. C'est pas du tout clair, l'attitude des Occidentaux est très loin d'être limpide à ce sujet-là. Mais ce qui est sûr, pour revenir chez nous, c'est que l'OLP a le même projet que le Hamas. D'ailleurs, il y a 15 jours, il y a eu, sur un papier officiel de l'OLP, le ministère des cultes, qui est responsable des prédicateurs dans toutes les mosquées, a envoyé une lettre dans laquelle il dit, c'est dans le sermon du vendredi, le thème doit être le hadith qui dit, puisqu'il y a un hadith qui raconte qu'au moment de Khaybar, c'était un moment de combat contre les juifs, il y avait un rocher et un juif se cachait derrière ce rocher, et alors miracle, le rocher s'ouvre et proclame aux musulmans, il y a un juif derrière moi, tue-le. Et c'est ce thème-là que l'OLP, l'autorité palestinienne, a ordonné à l'ensemble des imams de développer le jour, la semaine où il y a eu les massacres à Gaza.
C'est un désaccord de tactique, de russe, sur la réalité. Est-ce qu'on est capable de vaincre l'armée israélienne, et que, sur lequel le Hamas dit « nous, on va au djihad sans réfléchir » ou en réfléchissant, je ne sais pas, mais en tout cas, on y va par la force armée, c'est ça qu'il faut faire maintenant, alors que l'OLP, elle, préfère jouer un jeu à long terme.
Oui, un jeu à long terme, moyen terme. De toute façon, le but, c'est l'affaiblissement d'Israël. Il faut dire qu'ils réussissent pas mal. Puisque depuis la signature des accords d'Oslo, il y a eu un affaiblissement progressif d'Israël, une espèce de démantèlement de la vigilance dans tous les domaines qui a entraîné, entre autres, les massacres du 7 octobre. C'est-à-dire que
la garde.
C'est un système qui fonctionne assez. Donc, pour revenir à notre sujet, je reviendrai après sûr, pour l'OLP, les musulmans sont dans l'incapacité donc de vaincre, c'est-à-dire qu'ils perdent des territoires, c'est ça qui est très important, n'est-ce pas? Alors, ils peuvent signer et faire comme Mahomet, dire on signe pour 10 ans. Et alors, c'est 10 ans renouvelables éventuellement. Tout dépend de la puissance d'Israël et de sa détermination à ne pas céder à la violence qui s'adresse à lui.
Ce que vous êtes en train de dire, et je vais appuyer sur ce point, c'est que contrairement à ce qu'on pense, que rendre les territoires comme on a rendu la bande de Gaza ou qu'on a donné à une certaine partie de la Judée-Samarie l'autorité civile l'autorité palestinienne, au lieu de... comment dire, d'encourager le calme. Au contraire, c'est un signal d'encouragement pour eux de dire « ça marche, on fait quelque chose, on va dans la bonne direction ».
Absolument. Je me souviens que lorsque Obama, le président américain, est arrivé en Israël, il a parlé aux étudiants et il leur a dit à l'université de Tel Aviv « dites à vos dirigeants de prendre des risques pour la paix ». Or, c'est une phrase extraordinaire parce que prendre des risques, c'est-à-dire se limiter militairement, prendre des risques. Or, si on prend des risques, automatiquement, on est affaibli. Et donc, on met les musulmans en obligation de djihad. Prendre des risques pour
réactive l'obligation.
Il réactive l'obligation du djihad. Là, il faut dire les choses très clairement. Il y a des tas de gens, surtout en Europe, en France et même ailleurs, qui considèrent que la solution à deux États est la solution qui s'impose. La solution à deux États, c'est la perte de l'État d'Israël.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que...
les États musulmans.
Oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce que la réalité... c'est qu'il faut être présent. C'est-à-dire que dès qu'on se retire d'un territoire, immédiatement, ce territoire va se transformer progressivement en un foyer de violence extrême. Le cas limite, c'est évidemment la bande de Gaza. On s'est retiré de la bande de Gaza, et à ce moment-là, ils ont progressivement développé tous les moyens pour nous mettre en danger, pour nous tuer. finalement. Or, c'est vrai de n'importe quelle situation, que ce soit en Judée-Samarie ou les Arabes palestiniens, les Arabes israéliens, il faut qu'on soit présent. Il faut qu'on soit présent et d'une vigilance extrême. On ne peut pas aller à la pêche. On ne peut pas se permettre de dire « bon, on a arrivé plus ou moins à un accord, occupons-nous d'autre chose ». Nous devons être toujours présents, toujours sur la brèche et toujours extrêmement vigilants pour tout ce qui ressemble à une espèce de soulèvement contre Israël.
Il y a une thèse qu'on entend et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Certaines personnes disent le monde arabe se fondamentalise et retourne au fondement de l'islam et donc du djihad. C'est dû au fait qu'il est dans une extrême pauvreté. C'est vrai, c'est dû parce qu'il se vit comme opprimé, il se vit comme colonisé, entre guillemets. Mais si ils ont une vie qui est une vie, je sais pas, qui ressemble à Dubaï ou je ne sais quoi, une vie qui est beaucoup plus épanouie sur le plan matériel, des libertés, etc. à leurs yeux, alors peut-être que on pourra espérer le fait qu'ils ne retourneront pas vers l'islam fondamental et ils seront plus laïcisés ou ils iront vers un islam plus modéré.
Ben, c'est l'illusion qui s'est effondrée le 7 novembre, puisque pendant des années et des années, Israël faisait passer des millions de dollars à l'autorité palestinienne par l'intermédiaire du Qatar, faisait passer des biens, faisait passer des nécessités, y compris du béton, d'ailleurs des quantités de béton pour l'instant. C'est, nos soldats sont en train de se battre contre des tunnels de béton qui ont été construits avec le béton que nous avons fait passer. C'est absolument invraisemblable. Et toute cette théorie s'est effondrée. C'est effondré avec les événements du 7 octobre.
Ils auraient pu en faire un Singapour du Moyen-Orient, mais et au contraire, ils en ont fait un État terroriste.
Mais non seulement ça, mais lors du démantèlement du Gouch Katif, il y avait des dizaines de ramamot, comment dire, de serres, qui ont été livrées clé en main aux Palestiniens,
et
avec d'ailleurs souvent des Arabes palestiniens qui savaient faire fonctionner, comme ces serres, etc. Et elles ont été rasées, transformées en base de lancement de missiles. C'est une approche complètement inverse. D'ailleurs, c'est un phénomène très général. On a étudié le cas des terroristes qui ont, du 11 septembre, les fameux attentats contre les deux tours aux États-Unis, ainsi que d'autres attentats. Et quand on voit le profil des terroristes, il s'agit de gens parfaitement établis, ingénieurs, mariés, avec souvent des...
J'adore ce que vous dites, mais je continue à me faire l'avocat de cette thèse. On voit aujourd'hui les Émirats Arabes Unis, on voit aujourd'hui l'Arabie Saoudite, avec laquelle il y a un certain rapprochement, et on se dit, on est face à des gens qui sont clairement dans le monde de l'islam, mais qui, apparemment, ont envie de vivre en paix avec Israël, qui ne sont pas dans cette dynamique, a priori, peut-être que je me trompe, qui ne sont pas dans cette dynamique de djihad actif pour reconquérir le monde et Israël. Donc peut-être que ici, il y a une solution.
Oui, bien sûr, peut-être qu'il y a une solution. Mais premièrement, on ne peut pas exactement prendre des pays comme Dubaï, etc., comme modèle pour l'ensemble des pays musulmans. Mais surtout, il y a autre chose. Maintenant, ça me rapproche du second point qui est important, c'est à quelles conditions il peut y avoir la paix. Alors, on a vu tout à l'heure que la première des conditions, c'est dans un état de faiblesse. C'est-à-dire qu'il faut impérativement qu'Israël soit fort. Si Israël n'est pas fort, on est au Moyen-Orient, celui qui est faible est voué à être déchiré par les chiens, comme dit le proverbe arabe. C'est-à-dire qu'il faut être constamment sur ses gardes, constamment extrêmement fort. En étant fort, alors on dégage, comme je dis, les musulmans de l'obligation du combat. Et à ce moment-là, il y a de quoi parler. On peut vivre ensemble, ils peuvent vivre à faire des études, avoir une famille, travailler, gagner de l'argent. Tout est possible, mais la condition de cela, c'est d'avoir une attitude extrêmement claire, extrêmement forte. Or,
c'est pas seulement être fort, parce que nous sommes forts. Nous avons une armée israélienne, une des armées les plus fortes du Moyen-Orient. Et c'est pas seulement être fort, apparemment, c'est aussi faire une démonstration continue de cette force. C'est-à-dire, l'utiliser. Hein,
absolument. Une démonstration continue de cette force, et en particulier dans les manifestations extérieures de la violence. C'est un point qui est très important, que je vous disais depuis les accords d'Oslo. Israël, progressivement, a été en quelque sorte affaibli de l'intérieur par cette présence montante de la violence palestinienne. Je donne un exemple entre mille. À l'université de Beersheba, on a permis aux étudiants palestiniens de défiler avec le drapeau palestinien. Mais ce que ça signifie, le drapeau palestinien, ça signifie « nous allons détruire Israël ». Ouais. C'est ça que ça veut dire. Mais
de la mer au Jourdain.
de la mer au Jourdain. C'est ce qui est dit partout, de la mer au Jourdain, c'est-à-dire la disparition de l'État d'Israël. Mais pour la société israélienne, pluraliste, ouverte, etc., elle ne se sent pas en situation d'imposer le fait de ne
pas permettre un narratif.
Un narratif palestinien.
Liberté d'expression.
Vous avez d'autres exemples. Je ne parle même pas des attentats qui ne sont pas réellement combattus. Parce que de tuer le terroriste qui a commis un attentat, c'est une nécessité.
C'est ouvrir les portes du paradis.
C'est ouvrir les portes du paradis. C'est en aucun cas une dissuasion d'agir. Et Israël ne prend pas les mesures pour dissuader. Elles existent, ces mesures. Elles existent, mais ils ne les prennent pas. Ce qui est en soi un événement d'une gravité terrible, parce qu'il s'agit de morts presque quotidiens maintenant, d'une part. Mais deuxièmement, le lendemain d'un attentat, dans les villages arabes, on distribue des friandises. Bonbons, ouais. Et le lendemain, le village en question existe encore. Il n'a pas été rasé. Mm-hmm. Les gens n'ont pas été chassés. Ils ont eu fait ça une fois, ça ne se reproduirait plus. Mm-hmm. Mais il y a une espèce de laisser-aller constant qui est en train de ces choses-là. Donc c'est une affirmation. Israël doit... C'est en train de se passer, d'ailleurs. C'est un point d'espoir extraordinaire. C'est le fait qu'Israël doit relever la tête. C'est redevenir lui-même, redevenir souverain sur sa terre et avoir une attitude responsable, l'attitude d'un peuple souverain et pas un peuple qui est en train de se diviser progressivement sous une violence latente de la part des Palestiniens. C'est un point extrêmement
important. Ça, vous disiez, c'est le premier point possible pour une paix, c'est de marquer de manière claire la force et donc les rendre, exemptés de cette obligation de djihad. Quel est le deuxième point ?
Alors le deuxième point est beaucoup plus profond en vérité. C'est le fait, comme vous l'avez souligné, qu'il y a de nombreux versets du Coran qui disent très clairement que la terre d'Israël a été donnée aux enfants d'Israël. Alors, à plusieurs reprises, d'abord dans les récits des explorateurs, vous savez que presque tous les récits bibliques importants sont présents dans le Coran. Joseph descend en Égypte, les enfants d'Israël sont mis en esclavage, les 10 plaies, enfin il y en a 7 dans le Coran, 7 plaies, enfin c'est pas grave, la sortie d'Égypte, le don de la Torah au Mont Sinaï, 4 fois rappelé. C'est un point très, très important. Et puis, la venue en Israël avec les explorateurs qui refusent ou qui ont peur de rentrer en Israël. Et alors, le verset dit, Moïse dit à son peuple, « Ô mon peuple, utrul l'arda muqaddasa allati kataba laha lakum. » Entrez dans la terre sainte que Dieu vous a écrite. Okay. Écrite, ça signifie beaucoup plus fort que promise, la terre promise ou la terre donnée. Écrite en arabe, ça signifie « maktoub », ce qui est écrit. C'est un décret divin.
Ok.
Et ça, c'est marqué dans le Coran.
Alors, donc il y a en fait une espèce de contradiction interne entre d'un côté ce que vous avez dit, qui est qu'Israël est sur une terre d'islam qui a été conquise, et donc la première obligation avant de s'occuper du reste du monde, c'est de reconquérir Israël. Vous dites, d'un autre côté, on a des versets qui viennent et qui disent que la terre d'Israël a été donnée au Bnei Israël. Donc on a une contradiction interne dans les textes musulmans.
Non seulement ça, mais on a même des frontières. Puisqu'on dit qu'aux enfants d'Israël a été donné l'Orient et l'Occident de la terre que Dieu avait bénie. Si vous ouvrez les commentateurs du Moyen-Âge traditionnel, ils disent « l'Est et l'Ouest du Jourdain ».
Ah, ok, on a Transjordanie aussi.
Il y a plus encore... ici, le grand héritage d'Israël. Ouais.
Voilà, et même il y a quelque chose de très étonnant, c'est que le Coran est le livre de la révélation absolue, de la prophétie absolue, mais il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans le Coran, de manière étonnante, c'est qu'il n'y a pas de récit eschatologique. C'est-à-dire, on s'attendrait à ce qu'il y ait des prophéties dans le Coran, puisqu'il est le Khatim el-Anbiya, le sceau des prophètes. Ben, il n'y en a pas, sauf à un endroit, où il y a deux endroits peut-être, enfin un endroit le plus clair, c'est qu'à un moment, il est dit, et habitez cette terre, et quand viendra le moment l'événement de la fin dernière, de la fin des temps, je vous ramènerai en une foule sur cette terre. Je ramènerai les enfants d'Israël en une foule sur cette terre. L'arabe dit la fifan. La fa, c'est un mélange de fils mélangés. C'est-à-dire, je vous ramènerai comme une foule bigarrée, mélangée sur cette terre. J'ai à la maison un texte d'un Coran d'un commentateur libanais, musulman, etc., qui écrit c'est l'État d'Israël. Mmh. Il dit c'est l'État d'Israël. Je vous ramènerai en une foule.
Mais il y a quelque chose qui est quand même vachement étonnant. D'un côté, vous nous avez dit que les Juifs sont les 10 000 des 10 000, c'est-à-dire ils doivent être les plus opprimés, ceux qui doivent le moins lever la tête. Et d'un autre côté, on a des textes qui sont très clairs d'après vous et qui disent que les Bnei Israël doivent revenir sur leur terre, etc. Oui. Des prophéties claires.
Alors, premièrement, on peut s'étonner que ces textes aient été laissés dans le Coran. Pourquoi je dis laissés dans le Coran ? Parce que comment se sont passées les choses ? Mahomet a eu une révélation par l'ange Gabriel. Venait déposer chaque fois, ou lui apprenait un verset du Coran, ou un chapitre du Coran, et Mahomet le répétait, et ses fidèles écrivaient l'ensemble de ses écrits, sur un de ses textes, sur des omoplates de chameau. Une omoplate de chameau, c'est un tableau, on peut dire en os, qui a entre 40 et 50 cm², de 45 sur 50 cm, et dont on se servait pour écrire, graver les choses avec un stylet. Et donc, ils écrivaient ces paroles de Mahomet, ces versets. Et le troisième calife, Osman Ben Affan, alors que les conquêtes avaient déjà commencé partout, en quelque sorte, a fait rassembler l'ensemble de ces textes à Médine. Ces textes ont été triés, classés, selon un certain ordre, qui était l'ordre de longueur des chapitres, et il a fait brûler les textes originaux. Ce qui fait qu'il a créé le livre qu'on appelle le Coran.
Okay.
Alors, à ce sujet, les chiites disent que c'est le moment où Osman, qui était un être impie, puisqu'il a usurpé le rôle d'Ali, etc., a fait effacer tous les passages du Coran où il était dit que Ali était le véritable successeur de Mahomet. Bon, mais en tout cas, c'est comme ça qu'est né le Coran. Alors, on peut s'étonner
qu'il ait gardé les passages sur les Bnei Israël
dedans. Ça. Alors, premièrement, il y a une remarque très importante à faire, qui est directement liée à notre sujet, c'est que lorsqu'un musulman cite un verset du Coran, il ne dit pas Mahomet dit dans le Coran, ce qui est une hérésie. Qu'Allahu Ta'ala, Dieu dit. Et okay. Il cite la parole de Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec.
Okay.
C'est bon. Alors, il est admis qu'il y a deux périodes de la vie de Mahomet, avant Médine et après Médine. Que la première période, il était plutôt vis-à-vis des Juifs, et ses versets se rapportaient à la première période. Et la seconde période, dans laquelle les Juifs ont son maudit, etc. Alors, il y a une grande règle dans le Coran, c'est Nasr ou Mansour, c'est-à-dire lorsque deux versets sont contradictoires, alors on prend le plus récent, c'est-à-dire c'est lui qui l'emporte sur le verset précédent. Si on prend le verset qui est écrit plus tard, c'est lui qui l'emporte sur le verset qui est écrit avant.
Combien c'est strict cette règle ? Parce que si jamais ce que vous dites c'est que les versets qui sont positifs envers les Juifs, envers les Bnei Israël, ils sont précédents à ceux qui ne le sont pas, est-ce qu'il y a une façon de se sortir de cette règle ? Tout le monde est d'accord sur cette règle d'interprétation ?
Alors oui et non. C'est-à-dire que c'est une règle qui est assez stricte, seulement elle a des contraintes. Par exemple, il s'agit exactement de la même chose. Par exemple, les histoires d'héritage. Il y a une contradiction entre des versets dans lesquels la femme doit prendre telle partie ou une telle autre partie, etc. Donc on ne sait pas comment on résout le problème. On prend le verset le postérieur. Mais les gens font remarquer que nulle part il est dit que Mahomet a annulé le décret divin pour les enfants d'Israël. On peut dire qu'il a maudit les enfants d'Israël, c'est une chose, mais il n'a pas dit qu'il lui a repris la terre d'Israël.
Okay.
C'est la raison pour laquelle cet argument a été progressivement abandonné. Et l'argument principal qui est répété par tous les Palestiniens, c'est au programme du bac. Je n'hésite pas à le dire, vraiment, etc. C'est de dire, c'est vrai que Dieu a donné la terre d'Israël aux enfants d'Israël. C'est écrit noir sur blanc, on ne peut pas aller à l'encontre de cette... Ça. Mais vous n'êtes pas les enfants d'Israël.
Okay.
C'est-à-dire que les enfants d'Israël ont existé, ils ont disparu dans l'histoire. Et vous êtes les Juifs, c'est une nouvelle religion qui s'est fondée sur une réinterprétation des textes bibliques. Mais vous n'êtes pas ethniquement descendant des enfants d'Israël. D'ailleurs, rien ne ressemble autant à un Marocain qu'un Juif marocain, à un Polonais qu'un Juif polonais, et maintenant même les Éthiopiens, un Juif éthiopien, etc. Donc vous n'êtes pas ethniquement les enfants d'Israël.
Oh.
Alors ça, c'est un thème extrêmement important. Il n'y a pas longtemps, il y a un an, le premier ministre palestinien, Ashti, a publié un article immense dans Al-Quds, dans le journal Al-Quds, pour prouver que les enfants d'Israël, les Juifs ne sont pas les enfants d'Israël.
Donc c'est un thème extrêmement important.
C'est un thème extrêmement important.
Toute la lutte palestinienne, elle se fonde sur ce point-là. Est-ce qu'on a devant nous les Bnei Israël sur le à l'égard de ce que Allah a dit qu'il leur donne à Israël, ou est-ce qu'on a affaire à un rassemblement de gens de l'Europe d'ailleurs qui n'ont rien à voir avec eux et donc eux ils sont illégitimes
avec eux. Et ça, c'est un thème extrêmement important qui en vérité est au cœur de débats très profonds, mais en quelque sorte interdit de publicité chez les Palestiniens. C'est une grande question, est-ce que les Juifs sont les enfants d'Israël ou pas ?
Donc aujourd'hui, par exemple, l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis, etc., ceux qui font la paix à Israël et qui reconnaissent l'État d'Israël, ils ont une interprétation de ces textes-là en disant « ces textes-là sont justes, la terre d'Israël est en effet au Béné Israël, et les Juifs qu'on a face à nous sont les Béné Israël ».
Mais il y a un passage extraordinaire, il y a quelques années, sur la télévision koweïtienne, est apparu, il y avait un débat entre le journaliste et Abdallah Al-Khadlak, c'est un dignitaire koweïtien important, alors Djellaba... l'attirail habituel d'un cheikh de la région. Et alors le journaliste lui dit, mais c'était à l'époque, avant les accords encore, où il y avait déjà des contacts sécuritaires entre Israël et l'Arabie. Alors il dit, mais on entend, il y a des bruits que vous êtes en contact militaire ou renseignement avec l'État d'Israël. Et comment est-ce possible, puisque l'État d'Israël a volé la terre des Palestiniens ? Il dit, mais il lui répond, mais ils n'ont rien volé du tout. cette terre leur a été donnée par Dieu, comme il est dit, oh, mes enfants d'Israël, rentrez dans cette terre que Dieu vous a promise, etc. Et il cite ce verset que j'ai cité du Coran.
Et c'est admis par des sommités, des sages aujourd'hui de l'islam, ce genre de compréhension ?
Et c'est dit publiquement, à la télévision. Oui, il dit cette chose-là.
Mais ce que je veux comprendre, c'est est-ce que c'est juste une affirmation publique d'un dignitaire chrétien, ou est-ce que ce qu'on appelle maintenant, je lis les accords d'Abraham, est-ce qu'ils ont reçu ce sceau religieux, cette reconnaissance religieuse, avec ces versets-là aussi en Arabie Saoudite, qui s'apprêtaient à signer jusque-là?
Est-ce qu'on est face à une école de pensée qui reconnaît le droit du peuple juif à être sur la terre d'Israël? Ou est-ce que c'est encore dans ses balbutiements?
Alors, c'est ni ça ni ça. C'est-à-dire qu'il le dit publiquement, ça fait écho à des tas de consciences dans le monde arabe, qu'effectivement, dans l'arabo-musulman, qu'effectivement, combien de temps on peut encore se mentir? Parce que ils disent que, comme une parole d'évangile, si je puis dire, que les juifs ne sont pas les juifs, c'est-à-dire que les juifs ne sont pas les enfants d'Israël, mais ils n'y croient pas eux-mêmes. Je donne un exemple. Il y a quelque temps, il y a eu un sermon violent contre Israël à la mosquée d'Al-Aqsa, et celui qui parlait a dit, alors répétez tous les thèmes antisémites traditionnels qui ont été intégrés à l'islam. Oui, les juifs sont, qui croyez-vous domine l'économie mondiale? Les Yahoud, qui les juifs, qui domine les informations, la presse? Les Yahoud, qui domine la télévision? Les Yahoud, etc. Et qui domine, etc. Et puis à un moment, il dit, Banu Israël. Ah non, les juifs. C'est-à-dire qu'il se reprend, parce que ça lui vient naturellement. D'autant plus qu'en vérité, c'est un peu curieux, parce qu'ils accusent Israël, les juifs, de toutes sortes de mots, de qu'ils ont, par exemple, le veau d'or, c'est un thème qu'ils reprennent très, très souvent. Et alors, si les Juifs sont responsables du veau d'or, alors c'est qui?
Ils sont venus Israël.
Donc il y a vraiment deux terminologies différentes, il y a Yahoud et Banu Israël, c'est deux.
Oui, alors il y en a qui font de la différence justement sur Yahoud et Banu Israël. Mais encore une fois, il s'agit d'arguments faibles, parce qu'on voit qu'ils sont toujours, ces deux notions sont intimement liées, déjà dans le Coran, comme d'ailleurs dans le hadith. Maintenant, qu'est-ce qui se passe chez ces gens-là? Est-ce qu'ils reconnaissent vraiment ou pas? D'abord, il faut savoir une chose, c'est le fait d'avoir appelé les accords d'Abraham, ça signifie, c'est extrêmement parlant. C'est-à-dire, pourquoi accord d'Abraham? C'est les accords entre les fils d'Israël et les fils d'Ismaël, si je puis dire. Mais, et donc les juifs, les sionistes, sont donc les enfants d'Abraham. Ouais. Donc, ils sont donc, et quel peuple ils sont? Ils sont donc les Banu Israël, les Béné Israël.
Il y a une reconnaissance de notre généalogie commune, en fait.
C'est pas d'aujourd'hui, d'ailleurs. En 1964, il a été fondée la charte de l'OLP. C'est connu, la charte de l'OLP. Un des articles de la charte de l'OLP, écrite en 64, c'est de dire « Les Juifs sont une religion et pas un peuple ». On peut se demander qu'est-ce que ça leur fiche, les Juifs sont une religion et pas un peuple. En quoi c'est leur histoire? Ils sont en combat contre nous, etc. Non. Non, c'est parce que si c'est un peuple, quel peuple c'est? Et donc, il faut écarter l'idée qu'il soit béni Israël à cause de ces choses-là.
On vous dit qu'en fait, c'est un sujet qui travaille énormément aujourd'hui, le monde arabe et en particulier le monde arabe palestinien. Mais ce qui me manque un petit peu, c'est de comprendre, est-ce qu'on est... Je prends un exemple dans le monde juif, on est capable de dire qu'il y a des écoles de pensée, chassidim, mitnagdim, sionistes religieux, etc. Il y a des écoles de pensée légitimes, on peut dire, voilà, il y a 30%, 30%, etc., des gens qui suivent les différentes écoles de pensée. Est-ce que là, on est capable de dire qu'il y a il y a des écoles de pensée aujourd'hui dans le monde arabe qui considèrent que l'État d'Israël appartient à ceux qui résident aujourd'hui, les Bnei Israël?
Il ne s'agit pas d'écoles de pensée, parce que le débat, c'est sur le sens des versets du Coran. C'est ça qui est très important. Tout dépend, en quelque sorte, de l'interprétation qui est faite de ces versets-là. En principe, chaque fois que des courants qui ont essayé de réformer l'islam se sont fondés sur la première partie de la prédication de Mahomet, c'est-à-dire à la Mecque, qui a plus de versets moins violents et qui est plus ouvert sur les juifs, etc. Mais c'est interdit dans l'islam et c'est pas puni de mort. La dernière fois, il y a quelques années, il y avait un prédicateur soudanais, âgé, qui a essayé de dire cette chose-là, il était pendu sur la place à Khartoum. On ne plaisante pas avec ces choses-là dans l'islam. Mais il y a une chose. D'abord, il y a la réalité d'Israël qui s'impose au fur et à mesure et qui change un peu les consciences. Combien de temps on peut dire que c'est une vue de l'esprit, l'État d'Israël, Dieu les a rassemblés ici pour qu'on puisse les tuer plus facilement, comme il a été dit souvent. Pourquoi est-ce que Dieu rassemble les enfants d'Israël ici, les Juifs? Vous savez, pour qu'on puisse les tuer ensemble sans devoir les chercher partout dans le monde, etc.
Pratique.
Ça a été écrit dans
un texte. C'est contradictoire avec l'histoire des pierres et des arbres dont on se cache derrière.
Oui, c'est ça. Alors, il y a cette dimension-là. Il y a le fait que les États du Golfe, en particulier, ont cet avantage d'être des États, si je puis dire, qui n'ont aucun complexe d'identité vis-à-vis de leur islam. Ils sont arabes. Ils sont arabes avec les témoignages d'ancienneté dans leur arabité, qui fait qu'ils sont assez à l'aise pour parler de différentes choses et d'avoir une attitude différente que certains pays, comme par exemple l'Algérie, qui est un des pays les plus antisémites au monde, qui est un pays qui n'a rien, qui était créé de rien. Et donc ils se jettent sur le combat palestinien comme étant un pôle d'identité. Mm-hmm. Vous avez les jeunes Algériens en France, et lorsqu'il y a des jeux de football entre laquelle l'Algérie est impliquée, qui vont avec le drapeau algérien et le drapeau palestinien. Mm-hmm. Mais quel rapport avec ça ? C'est parce que ce sont des pays qui n'ont pas d'identité vraiment profonde d'un point de vue arabe. D'ailleurs, les Arabes des pays du Golfe le disent clairement aux Palestiniens. Vous n'êtes pas des Arabes, vous êtes un mélange de croisés, de Turcs, etc. Enfin, mm-hmm. ils ont beaucoup de mépris pour les Palestiniens. Dire nous sommes vraiment des Arabes. Et donc, ils ont une espèce de plus grande liberté de mouvement vis-à-vis de cette chose-là. En tout cas, cette idée a fait son chemin et elle est reprise très souvent. Alors, ce qu'il y a, c'est comme tout, c'est toute autre réalité au Moyen-Orient, elle dépend beaucoup, elle est fluide. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un grand mouvement de la rue arabe, comme on dit, contre Gaza, contre Israël, etc., alors les dirigeants font attention, ils se replient un petit peu sur leur ligne de départ, condamnent Israël, même si c'est un peu formel, mais tout le monde entend que c'est formel, etc. Mais il n'empêche que la voie est tracée. Et il y a ici, il faut bien dire les choses, c'est que si aujourd'hui, cette idée que l'État d'Israël est réellement l'État, a été donné aux enfants d'Israël par Dieu, et que c'est écrit dans le Coran, d'abord, c'est extrêmement important. Je voudrais revenir à Abdallah al-Khadlak. Pourquoi est-ce qu'il dit aux journalistes, mais ils n'ont rien volé, ils n'ont fait que c'est Dieu qui leur a donné cette terre? Il n'était pas obligé de répondre à cette question comme ça. Il aurait très bien pu dire, vous avez raison, mais nous sommes menacés aujourd'hui par l'Iran. Et très gravement, effectivement, l'Iran représente une menace existentielle pour les États du Golfe et l'Arabie saoudite aujourd'hui. Je dirais même plus qu'Israël, à la limite. Et donc, j'ai pas le choix, je m'allie au Satan pour survivre. Mm-hmm. Mais il dit pas ça. Il lui faut une légitimité islamique, mm-hmm. dans cette attitude. Et donc, il va au verset du Coran et il dit, c'est Dieu qui a donné cette terre aux enfants d'Israël. Alors, il s'agit aujourd'hui d'un léger fluide. C'est quelque chose qui coule doucement au milieu d'un torrent, d'un tsunami d'hostilité dans le monde arabe. Il existe ce goutte-à-goutte, en quelque sorte, qui parle de la légitimité d'Israël d'un point de vue coranique. Mais ce goutte-à-goutte, ce léger fluide, comme je disais tout à l'heure, est porteur d'immenses espérances. On peut penser que viendra un jour, une fois qu'on aura résolu la destruction du Hamas à Gaza et d'autres choses, et du Hezbollah au Liban, etc., il y a un moment où les consciences islamiques vont prendre conscience que ce n'est pas par hasard que le peuple d'Israël est sur cette terre, c'est parce que Dieu a choisi les enfants d'Israël sur cette terre. Et à ce moment-là, c'est la manière pour eux de pouvoir se réconcilier avec leur identité musulmane et l'existence de l'État d'Israël. D'ailleurs, ce n'était pas entièrement nouveau, parce que à la naissance du mouvement sioniste, enfin un peu plus tard, dans les années 20, dans la correspondance entre l'émir Faisal et Weizmann, il parle déjà de ces choses-là. On attendait votre retour, on savait que vous devez revenir, etc. Oh. Mais ces choses-là se sont éteintes progressivement. Il y a une très lourde responsabilité des Anglais, d'une part, qui étaient intéressés à diviser pour régner, comme toujours, et surtout une responsabilité énorme d'un être maléfique qui est l'imam Haji Amin al-Husseini, qui a attisé toutes les haines possibles contre les Juifs dans le monde arabo-musulman, de manière générale, et jusqu'à s'allier avec Hitler, c'est bien connu, etc. Donc, lui a définitivement amener avec lui l'attitude des musulmans dans une hostilité radicale vis-à-vis d'Israël.
Alors c'est clairement une lueur d'espoir, et c'est bien de l'avoir. J'ai deux questions. Premièrement, stratégiquement parlant, comment on pourrait, nous, essayer de faire monter cette voix au sein du monde musulman? Et deuxième question, j'ai du mal à comprendre la cohérence qu'aurait cette voix-là dans l'islam, si le but est finalement d'asseoir le pouvoir musulman partout dans le monde, sauf dans ce petit village gaulois qui serait le...
Alors je veux répondre à ce que vous m'avez dit, à vos deux questions. Le grand problème dans ce débat, c'est nous. Mmh. C'est-à-dire que, comme nous ne nous affirmons pas du tout, vu la multiplicité des opinions dans l'État d'Israël, qu'on n'annonce pas clairement que nous sommes là sur la terre que Dieu nous a donnée, On ne peut pas exiger des musulmans d'être plus royalistes que le roi.
Non, on ne parle pas en langage religieux, alors qu'il faudrait parler en langage religieux.
Il faudrait parler
si
en langage religieux.
Si demain, Benjamin Netanyahou, il se met devant les caméras, devant les podiums, et il dit, et il prend le Tanakh, et il dit, Dieu nous a donné cette terre, c'est marqué chez vous aussi, habituez-vous à cette idée.
Oui, absolument. Je me souviens d'ailleurs, il y a quelques nombreuses années, Arik Sharon, une fois, a été interviewé par Al Jazeera. Alors je lui dis, mais c'est extraordinaire, il va parler, il va être vu dans l'ensemble des cuisines du monde arabe tout entier, tout le monde va le voir. Et qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je m'attendais à ce qu'il dise, s'il avait dit une chose pareille, l'effet aurait été massif. Mm-hmm. Alors, à la fois d'hostilité, mais en même temps d'intérêt. C'est sûr, ça aurait fait bouger des choses. Non, nous amenons la prospérité, nous allons nous allier, notre technologie.
On aura promis d'argent.
Enfin, c'est un discours lamentable qui est fait. Et c'est ça qui est le discours habituel. Alors, jusqu'à présent, on a peur de s'affirmer comme ça. Et donc, même lorsque les Arabes le disent, j'ai eu des exemples très récents, vraiment il y a 15 jours, 3 semaines, lorsque les Arabes disent ça, mais c'est parce que vous êtes les enfants d'Israël, etc. Alors les représentants diplomatiques israéliens disent oui, mais ce qui est important, c'est les apports technologiques qu'on peut apporter à la région, etc. Ils ont peur de rentrer dans ce domaine-là. On peut le comprendre parce qu'il y a des opinions différentes, certains sont athées, certains, etc. Mais il n'empêche qu'on ne peut plus se permettre cette espèce de laisser-aller, de démantèlement spirituel. Mmh. On est obligé, face à une affirmation aussi forte que celle de l'islam vis-à-vis de nous, de nous reconstituer comme peuple juif ayant une parole claire. Il ne s'agit pas que chacun mette les tefilines tous les jours, etc. Mmh. Chacun, il y a des degrés divers de religiosité, et même sans religiosité. Mais l'affirmation simple, que nous sommes les fils d'Abraham, Israël et Jacob, que nous sommes de retour sur cette terre après avoir été exilés, et toutes ces idées de base doivent être retrouvées avec force. Aujourd'hui, on est arrivé au point récemment où tous les regards sont tournés vers l'extérieur. Au lieu d'être sur cette terre, on ne rêve que d'aller à Los Angeles ou un peu partout. On est extrêmement sensible à l'opinion d'un ministre français ou hongrois ou finnois ou tout ce qui peut se dire, ou une actrice qui dit un mot contre Israël ou pour Israël. Il faut se retrouver, se ressourcer, redevenir soi-même et s'affirmer sur la scène de l'histoire pour ce que nous sommes. Et à ce moment-là, on sera surpris de l'impact que ça aura sur toutes sortes de peuples, y compris d'ailleurs les Européens, ce qui est notre débat maintenant. Mais il faut se retrouver soi-même dans toute notre force, etc.
Mais il faut noter que ce n'est pas quelque chose qu'on n'a jamais fait. C'est bien connu que David Ben-Gurion, il a, je ne sais plus d'ailleurs à quelle occasion, mais il a brandi exactement
la commission Peel,
il a dit la justification à moi, elle est écrite
notre
ici.
Notre mandat, c'est le
Tanakh.
Mais à l'époque de David Ben-Gurion, il était tout entier comme ça. Je vais vous donner un exemple. J'ai vu il y a quelques temps à la Knesset, quelqu'un m'a montré, il y avait une pile de photocopies. Très simple, de toute feuille, une feuille comme ça, pas très grande, dans laquelle il écrivait de sa main, Ibn Gurion, c'était en 48, 49, etc. Il s'adresse aux autorités compétentes, et il leur dit, faites passer de l'autre côté de la frontière un tel avec sa famille, le jour même. Et il y a une pile comme ça, de choses. Eh bien, la conséquence, c'est qu'à l'époque, vous pouvez prendre votre petite fille de 7 ans, vous pouvez aller acheter un litre de lait dans n'importe quel village arabe, personne n'aurait... elle n'avait rien à craindre. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait une autorité très claire. Il s'agit de David Ben-Gurion sur la souveraineté de l'État, sans concession, sans manière, sans ces choses-là. Et ça, c'est extrêmement important.
La deuxième question que j'avais posée, c'est quelle est la vision finale, si finalement le but c'est dans l'islam, c'est de conquérir le monde de manière générale, mais il y a cette partie qui doit rester au Bnei Israël.
Alors là, ça c'est extrêmement important. Parce que le fondement du djihad, c'est l'universalité. C'est-à-dire le globe terrestre. Le djihad est universel. Il s'adresse qu'à une totalité. Or, si on introduit une frontière, et la seule frontière admise est une frontière divine, il faut avoir une légitimité divine. Et la frontière de la terre d'Israël, comme je l'ai dit dans le verset, est une frontière qui a une légitimité divine. Lorsque cette chose-là est admise, à ce moment-là, c'est le début d'un processus dans lequel l'altérité reprend un sens. C'est-à-dire, eux, ils ont droit à cette terre. Je n'y ai pas droit comme musulman. C'est parce que Dieu a donné cette terre aux enfants d'Israël. Et si je n'ai pas le droit, alors ça signifie, ça ne se limite pas à l'histoire du djihad sur la terre. C'est de manière générale, c'est s'ils ont une légitimité à être autre. Et reconnaître cette légitimité à être autre, c'est à mon sens, c'est peut-être un optimisme excessif, je dirais, c'est le début d'un processus qui fait qu'il y aura une reconnaissance de l'altérité, une reconnaissance de ce qui est autre que l'islam comme étant légitime d'un point de vue divin. Mmh. Et ça ouvre la porte à une espèce de teshuva de l'islam qui serait la conséquence de la reconnaissance de la légitimité de l'État d'Israël. Mmh. Dans un certain sens, on peut dire que l'État d'Israël est la chance de l'islam. C'est-à-dire que c'est grâce à lui qu'il pourra se libérer de ces démons qui sont les démons du totalitarisme, de la soumission de l'ensemble de la planète à une vision fantasmagorique, parce que de toute manière, il y aura des guerres, mais il n'y aura jamais d'un pouvoir de l'ensemble de l'islam sur l'ensemble des terres. Ce qui le libérera de ces fantasmes, c'est la reconnaissance concrète de l'État d'Israël. Mmh. C'est ce qu'on espère.
Ouais, c'est assez intéressant parce que dans ce podcast, il y a eu un moment où vraiment je me suis dit, on n'a aucune solution. C'est-à-dire qu'on est vraiment face à une idéologie extrêmement ancrée, extrêmement profonde et qui est totalitaire et qui on ne peut pas arriver à quoi que ce soit. Et au final, à la fin du podcast, on a des lueurs d'espoir assez claires. Merci infiniment. On a beaucoup appris.
On voudrais terminer par un mot. C'est un passage très connu du Talmud. On nous dit qu'à la fin des temps, Ismaël fera teshuva. C'est très étonnant. Et d'où apprenons-nous ça? C'est de l'enterrement d'Abraham. À l'enterrement d'Abraham, il est dit Vaïkberu oto, Yitzhak ve Israël, Yitzhak ve Ishmael banav. L'ont enterré Abraham, l'ont enterré Isaac et Ismaël, ses fils. Alors, il y a un étonnement, c'est que l'aîné, c'est Ismaël.
Et pourquoi on dit Yitzhak en premier.
Marqué Yitzhak en premier, Yitzhak et Ishmael. Lorsqu'il est un peu plus loin versé sur Esav, on dit Esav et Yaakov, il est l'aîné. Tandis que là, il dit
Yitzhak en premier.
Yitzhak en premier. Alors on dit, c'est qu'il a fait tchouva. Il a reconnu à Yitzhak son droit d'aînesse, donc de propriété sur la terre d'Israël, à Hebron, au moment de l'enterrement d'Abraham. On dit à la fin, il fait tchouva. C'est-à-dire qu'il y a ici, le jour où ils feront tchouva, ils pourront trouver dans leur propre source à quoi se raccrocher pour cette échouva.
On espère. Merci infiniment. À très vite. Merci.